Troisième partie. L'acte d'accusation. 16 juillet. 1.
Non, dit Howie Gold. Non, non, non.
C'est pour assurer sa protection, dit Ralph.
Vous imaginez bien que...
Ce que j'imagine, c'est une photo en une du journal. Ce que j'imagine, c'est l'ouverture de tous les journaux télévisés, des images montrant mon client arrivant avec un gilet pare-balles par-dessus son costume, en tenue de coupable, autrement dit. Déjà, il y a les menottes.
5 hommes étaient réunis dans la salle des visites de la prison du comté. Les jouets avaient été rangés dans leurs caisses colorées en plastique et les chaises renversées sur les tables. Terry Maitland se tenait à côté de son avocat. Face à eux, le shérif du comté, Dick Doolin, Ralph Anderson et Vernon Gilstrap, l'assistant du procureur. Samuels devait déjà les attendre au tribunal. Le shérif continuait à tendre le gilet pare-balles, sans rien dire. Dessus figuraient 4 lettres d'un jaune vif accusateur. FCDC, sigle de l'administration pénitentiaire de Flip County. Les 3 bandes velcro, une pour chaque bras, une pour la taille, pendaient. 2 agents pénitentiaires, si vous les appelez gardiens, ils vous remettront à votre place, montaient la garde devant la porte du hall. Ils avaient croisé leurs bras épais. L'un d'eux avait surveillé Terry pendant qu'il se rasait avec un rasoir jetable. L'autre avait fouillé les poches du costume et de la chemise apportée par Marcy, sans oublier d'examiner la couture derrière la cravate bleue. Gilstrap, l'assistant du procureur, regarda Terry.
« Qu'en dites-vous, mon gars? Vous voulez prendre le risque de vous faire flinguer? Moi, ça me va. L'État fera des économies en évitant un paquet d'appels jusqu'à ce que vous ayez droit à la piqûre. »
« Cette remarque est déplacée, » protesta Howie.
Gilstrap, un vieux de la vieille qui choisirait certainement de prendre sa retraite, avec une pension confortable, si Bill Samuels perdait les prochaines élections, répondit par un sourire narquois.
« Hé, Mitchell !» dit Terry.
Le gardien qui l'avait surveillé pour l'empêcher de se trancher la gorge avec un rasoir bic haussa les sourcils sans décroiser les bras.
« Il fait chaud dehors ?»«
29 degrés quand je suis arrivé, » dit Mitchell. « On va dépasser les 37 sur le coup de midi, qu'ils ont dit à la radio. »«
Pas de gilet alors, »
dit Terry, en s'adressant au shérif, avec un sourire qui le fit paraître très jeune.
« Je ne veux pas me présenter devant le juge Carter dans une chemise trempée de sueur. J'ai entraîné son petit-fils dans la Little League. »
Gilstrap, visiblement affolé par ce qu'il venait d'entendre, sortit un calepin de sa veste à carreaux pour noter quelque chose.
« Allons-y !» déclara Howie Gold.
Il prit Terry par le bras. Le portable de Ralph sonna. Il était accroché à sa ceinture. Du côté gauche, l'étui contenant son arme de service se trouvait à droite. Il regarda le nom qui s'affichait sur l'écran.
« Un instant, » dit-il, « il faut que je réponde. »«
Oh, bon sang !» protesta Howie. « C'est une lecture d'acte d'accusation ou un numéro de cirque ?»
Ralph l'ignora. Il se dirigea vers le coin le plus reculé de la salle, là où étaient regroupés les distributeurs de snacks et de soda. Arrivé sous la pancarte qui indiquait « Réservé aux visiteurs », il prononça quelques mots, puis écouta ce qu'on lui disait. Il coupa la communication et rejoignit les autres.
« Ok, allons-y. »
L'agent Mitchell s'était faufilé entre Howie et Terry, juste le temps de passer les menottes aux détenus.
« C'est trop serré ?»
demanda-t-il. Terry secoua la tête.
« En route alors. »
Howie ôta sa veste et la posa à cheval sur les menottes. Les 2 gardiens escortèrent Terry hors de la pièce, précédé de Gilstrap qui se pavanait telle une majorette. Howie emboîta le pas à Ralph et lui glissa.
« C'est le merdier. »
Comme Ralph ne répondait pas, il ajouta.
« Très bien, bouclez-la si vous voulez. Mais il faudra bien qu'on discute avant le grand jury, vous, moi et Samuels. Et Pellet aussi, si vous voulez. Les éléments du dossier ne seront pas divulgués aujourd'hui, mais ils finiront par sortir. Et à ce moment-là, on ne parlera plus d'une simple couverture médiatique locale. CNN, Fox, MSNBC, les blogs, ils seront tous là. Et ils vont se régaler.
Ce sera O.J. Simpson rencontre l'exorciste.
Assurément. Et Ralph devinait que Howie ferait tout son possible pour en arriver là. S'il incitait les journalistes à se focaliser sur le fait qu'un individu semblait se trouver dans 2 endroits différents en même temps, ils en oublieraient de s'intéresser au sort d'un jeune garçon qui avait été violé, assassiné, et peut-être même partiellement dévoré.
Je sais ce que vous pensez,
reprit Howie.
Mais je ne suis pas votre ennemi, Ralph. Sauf si vous avez un seul but, faire condamner Terry. Et je ne le crois pas. Vous n'êtes pas Samuels. Mais n'avez-vous pas envie de savoir ce qui s'est passé ?
Ralph ne répondit pas.
Marcy Maitland attendait dans le hall. Elle semblait minuscule entre Betsy Riggins, enceinte jusqu'aux yeux, et Yunel Sablo, de la police d'État. Voyant son mari, elle s'élança.
Riggins tenta de la retenir, mais Marcy se dégagea sans peine. Sablo demeura en retrait, aux aguets.
Marcy eut juste le temps de regarder son mari dans les yeux et de déposer un baiser sur sa joue, avant que l'agent Mitchell la saisisse par les épaules et la repousse, sans brutalité mais fermement, vers le shérif, qui tenait toujours le gilet pare-balles, comme s'il ne savait pas quoi en faire, maintenant que Terry avait refusé de le porter.
« Venez, Madame Maitland, » dit Mitchell. « C'est interdit. »«
Je t'aime, Terry !»
cria Marcy, tandis que les deux gardiens entraînaient son mari vers la sortie.
« Les filles t'embrassent très fort !»«
Moi aussi, je vous aime, énormément. Dis-leur que tout va s'arranger. »
Et soudain, il se retrouva dehors, sous le soleil déjà chaud, et le feu nourri de dizaines de questions, toutes braillées en même temps. Pour Ralph, toujours dans le hall, toutes ces voix mêlées ressemblaient davantage à des invectives. Il devait reconnaître que Howie était tenace. Il ne renonçait pas.
« Vous êtes dans le camp des bons, » lui dit l'avocat. « Vous n'avez jamais accepté un seul pot de vin. Vous n'avez jamais enterré de preuves. Vous avez toujours suivi le droit chemin. »
« Je crois que j'ai bien failli enterrer une preuve hier soir, » pensa Ralph. « Il s'en est fallu de peu. Si Sablo n'avait pas été là, si j'avais été seul avec Samuels. »
Howie affichait un air presque suppliant.
« Vous n'avez jamais été confronté à une affaire comme celle-ci, aucun de nous. D'autant qu'il ne s'agit plus uniquement de ce pauvre petit garçon. Sa mère est morte, elle aussi. »
Ralph, qui n'avait pas allumé la télé ce matin, s'arrêta pour regarder Howie.
« Quoi ?»«
Hier, crise cardiaque. Ce qui fait d'elle la victime numéro 2. »«
Alors quoi ? Vous n'avez pas envie de savoir ? Vous n'avez pas envie de tirer cette histoire au clair ?»
Ralph ne put contenir sa colère plus longtemps.
« Je sais déjà, et je vais vous refiler une info, gratuitement, Howie. Cet appel que je viens de recevoir, c'était le docteur Bogan, du département de pathologie et de sérologie de l'hôpital. Il n'a pas encore tous les résultats des analyses d'ADN, et il ne les aura pas avant une quinzaine de jours. Mais ils ont réussi à analyser le sperme retrouvé sur l'arrière des cuisses du garçon. Et il correspond au prélèvement salivaire que l'on a effectué samedi soir. Votre client a tué Frank Peterson. » Il l'a sodomisé avec une branche et lui a arraché un morceau de chair avec les dents. Et tout cela l'a tellement excité qu'il a juté sur le cadavre.
Ralph s'éloigna à grands pas, laissant derrière lui un Howie Gold, momentanément incapable de bouger et de parler. Et c'était une bonne chose, car le paradoxe central demeurait. L'ADN ne mentait pas, mais les collègues de Terry non plus. Ralph en aurait mis sa main au feu.
Ajoutez à cela les empreintes sur le livre et la vidéo de Channel 81.
Ralph était perplexe. Toutes ces contradictions le rendaient fou. 2. Jusqu'en 2015, le tribunal de Flint County se trouvait juste à côté de la prison, ce qui était très pratique. Les détenus convoqués pour la lecture de l'acte d'accusation étaient conduits d'une construction gothique à une autre, tels des grands enfants en excursion. Mais, bien évidemment, on menottait rarement les enfants pour les excursions. Aujourd'hui, une salle polyvalente inachevée jouxtait la prison, et les détenus devaient être conduits 6 pâtés de maison plus loin, jusqu'au nouveau tribunal, une boîte de verre de 8 étages que de petits plaisantins avaient surnommé le poulailler. Devant la prison, plusieurs véhicules attendaient pour effectuer ce trajet. 2 voitures de police, gyrophares allumés, une fourgonnette bleue et le SUV noir étincelant de Howie Gold. Debout, juste à côté de celui-ci, sur le trottoir, Alec Pellé ressemblait à un chauffeur, avec son costume sombre et ses lunettes de soleil. En face, derrière les barrières de la police, se pressaient les journalistes, les caméramens et une petite foule de spectateurs. Parmi ceux-là, plusieurs brandissaient des pancartes. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Mort au tueur d'enfants ». Une autre affirmait « Maitland, tu brûleras en enfer ». Marcy s'arrêta en haut des marches, et posa sur ses pancartes un regard consterné. Les agents pénitentiaires du comté se postèrent au pied du perron. Le shérif Doolin et Gil Strapp, l'adjoint du procureur, Les deux hommes techniquement responsables du rituel juridique de ce matin escortèrent Terry jusqu'à la première voiture de police. Ralph et Yunel Sablo se dirigèrent vers celle de derrière. Howie prit Marcy par la main et l'entraîna vers sa Cadillac Escalade. « Ne levez pas la tête, n'offrez pas au photographe autre chose que le sommet de votre crâne. »«
Ces pancartes, oui, ces pancartes !»«
Ne faites pas attention, continuez à avancer. » À cause de la chaleur, les vitres de la fourgonnette étaient ouvertes. Les prisonniers déjà assis à l'intérieur, des fêtards du week-end pour la plupart, convoqués au tribunal pour répondre d'une série de délits mineurs, aperçurent Terry. Ils collèrent leur visage au grillage et le huèrent.
« Pédale ! Tu t'es pas tordu la bite en entrant ? T'es bon pour la picouse, Maitland ? Tu lui as sucé la queue avant de la bouffer ?»
Alec fit le tour du SUV pour ouvrir la portière du passager, mais Howie secoua la tête et lui indiqua la portière arrière, du côté du trottoir. Il voulait éloigner Marcy le plus possible de la foule rassemblée sur le trottoir opposé. Elle avançait tête baissée et ses cheveux masquaient son visage. Mais en l'entraînant vers la porte qu'Alec tenait ouverte, il l'entendit sangloter, malgré le brouhaha.
« Madame Maitland !»
lança un journaliste à la voix de Stentor, de derrière les barrières.
« Votre mari vous a-t-il dit ce qu'il allait faire ? Avez-vous essayé de l'en empêcher ?»«
Ne levez pas la tête, ne répondez pas !»
ordonna Howie. Il aurait aimé qu'elle ne puisse pas entendre non plus.
« On contrôle la situation. Montez vite, qu'on fiche le camp d'ici !»
Tandis qu'il aidait Marcy à s'installer à bord du SUV, Alec glissa à l'oreille de l'avocat.
« Magnifique, non ? La moitié des flics de la ville sont en vacances, et l'intrépide shérif de Flint City parvient difficilement à maintenir l'ordre lors du barbecue du Rotary Club.
« Prenez le volant !» dit Howie. « Je monte à l'arrière avec Marcy. »
Une fois toutes les portières fermées, les braillements de la foule et des détenus se trouvèrent assourdis. Devant l'escalade, les deux voitures de police et la fourgonnette bleue venaient de démarrer. Elles roulaient aussi lentement qu'un convoi funéraire. Alec les suivit. Howie vit les journalistes courir sur le trottoir, indifférents à la chaleur. Il voulait être au poulailler quand Terry arriverait. Les camionnettes de la télé seraient déjà là, garées par choc contre par choc, tel un troupeau de mastodontes en train de paître.
« Ils le haïssent !» dit Marcy.
Le peu de maquillage qu'elle avait appliqué autour de ses yeux, principalement pour masquer les cernes, avait coulé, lui donnant l'apparence d'un raton laveur.
« Il a toujours fait le bien dans cette ville, et ces gens le haïssent !»«
Ils changeront d'avis quand le grand jury refusera de l'inculper !» dit Howie. « Il refusera, je le sais. Et Samuels le sait aussi. »«
Vous en êtes sûr ?»«
Oui. Dans certaines affaires, Marcy, il faut se démener pour trouver le moindre doute raisonnable. Celle-ci en est truffée. Le grand jury ne peut pas l'inculper, en aucune façon. »
« Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Êtes-vous sûr que ces gens changeront d'avis ?»«
Évidemment. »
Howie vit la grimace d'Alec dans le rétroviseur. Mais parfois, un mensonge s'imposait. Comme maintenant. Tant que le véritable meurtrier de Frank Peterson n'était pas arrêté, à supposer qu'il le soit un jour, les habitants de Flint City resteraient convaincus que Terry Maitland avait berné la justice. Et ils le traiteraient en conséquence. Dans l'immédiat, cependant, Howie devait se concentrer sur l'acte d'accusation.